plaisir aujourd'hui de partager avec vous la présence de Maxence Caron, qui va nous parler d'un grand personnage, Philippe Muret, et de tout ce que cela signifie. Tout ça, ça sera l'occasion de la sortie de deux livres sur Philippe Muret, dont il va nous parler. Maxence, vous vous êtes attelé à un travail colossal qui a duré 3 ans ou quelque chose comme ça, pour rassembler quelques écrits sur Philippe Muret. Alors, des écrits de Philippe Muret, qui n'ont pas été édités, je crois, mais aussi de son entourage intellectuel, proche ou lointain, qui a écrit sur le phénomène Philippe Muret.
Oui, 2 choses. D'une part, son entourage proche, et il y a aussi la volonté pour moi, puisque ce projet remonte à l'automne 2008, donc bien avant que...
Il est mort en 2006.
Voilà, ouais. Il est mort le 2 mars 2006. Donc bien avant que Fabrice Lucchini ne lui rende un très grand service, qu'il faut saluer, au Théâtre de l'Atelier, donc. Moi, j'ai voulu utiliser ma collection aux éditions du CERF, donc les cahiers d'histoire de la philosophie, qui étudie des penseurs consacrés par tous les meilleurs dictionnaires, puisqu'il s'agit de Hegel et de Goethe, de Saint-Augustin.
Et donc, vous avez introduit un humoriste.
Oui, une sorte... Voilà, une alors, sorte celui qu'on croit être un humoriste, j'ai en fait voulu, d'une part, réunir, donc, comme vous dites, des textes, il y en a en tout 39, oui, 39
ça fait,
contributeurs,
ça fait un gros livre,
dont Philippe Muret lui-même, ça en fait 40. Donc, ça fait 40, moi compris. Et j'ai également publié, pour montrer que Philippe Muret était un penseur sérieux, j'ai écrit un texte qui, comme d'habitude, est parfaitement illisible, qui s'appelle « Philippe Muret, la femme et Dieu ». Que je déconseille fortement, car c'est totalement inutile.
Et donc, merci, là pour rétablir la situation, qui est édité chez Arthège, et qui vient de sortir en même temps que...
Voilà, donc, en fait...
Très éclairant, parce que, en fait, c'est la clé.
Ben, oui, c'est-à-dire, le but n'était pas d'expliquer la pensée de Muret, qui est, somme toute, au premier abord, assez claire, il n'y a pas besoin de faire du sous-Muret pour expliquer Muret, le but est plutôt d'aller sous-Muret pour voir Muret. Donc, d'aller dans le sous-œuvre de Muret. Et il me semble donc que les 2 thèmes que sont la femme et le rapport de Muret au divin, qui, on ne le sait pas assez, n'étaient pas catholiques, n'étaient pas confessants, eh bien, ces deux clés permettent d'ouvrir beaucoup de perspectives et de comprendre les subtilités d'une œuvre qui n'est pas celle d'un humoriste de luxe ou bien de quelqu'un qui sait faire des gentils jeux de mots qu'on utilise le samedi soir dans des émissions réputées que je n'en garde pas, mais dont on m'a parlé. Et donc, il y a une pensée de Muret, parce que bon, vous savez qu'il y a des grands débats aujourd'hui, on se demande encore si Muret est un écrivain, on ne se demande même pas si c'est un penseur, parce qu'évidemment, penseur, philosophe, oui, bon, ce sont quand même des gros mots, hein, nous sommes quand même en 2011,
nous
arrivons en 2012 et vous savez ce qu'on dit de 2012. Bon, donc parler de pensée aujourd'hui, c'est quand même dire un gros mot. Donc il faut quand même regarder les choses en face. Philippe Muret a une pensée, même une pensée extrêmement subtile. Elle est construite par un homme qui avait une érudition extraordinaire, qui lisait aussi bien les pères de l'Église que Lacan, que tout ce qu'il pouvait trouver de nourrissant, bon, il y en avait de moins en moins certes, mais de nourrissant tout de même dans son époque. Il connaissait par cœur Balzac, Baudelaire, il connaissait par cœur toute
Céline,
la littérature.
Oui,
Céline, il a écrit bien sûr sur Céline, il avait une culture artistique également remarquable. Donc c'est un homme dans les textes duquel on trouve des clins d'œil considérables. C'est un homme qui a écrit des textes qui sont remplis d'appels du pied, qui nous demandent de regarder ces textes avec beaucoup plus d'attention que simplement cette espèce d'occasion qu'on croit y voir de rigoler un bon coup sur une époque qu'aujourd'hui, unanimement, on considère comme une époque dont il vaut mieux rire.
Alors moi, ce qui m'a beaucoup intéressé dans ces 2 publications, c'est l'apparition d'un personnage on a côtoyé, enfin que j'ai côtoyé toute ma vie, parce que c'est un 68 art en fait. Donc il est absolument, je dirais, intellectuellement né de cet événement qui a quand même profondément modifié, profondément changé la France, et qui en a vécu toutes les contradictions, et qui a essayé de survivre à mai 68 et de tirer son épingle du jeu, si on peut dire. Donc ça, c'est un personnage parfaitement intéressant à analyser pour comprendre l'époque. Et d'autant plus que, comme dit Chantal Delsol, elle dit « Oui, c'est un 68 art, pas assez 68-té pour pouvoir voir toute la, la folie, la démesure, le côté fou de cette époque et de toutes les folies qu'elle a provoquées. » Vous vous dites qu'il n'est pas 68 art, vous dites qu'il est 70.
C'est-à-dire que c'est tout le sujet du livre, justement, sur son rapport à la femme et son rapport au divin. C'est un personnage qui vit le rapport à 68 et à ce qu'il écoute immédiatement 68, c'est-à-dire les années 70, de manière extrêmement complexe, extrêmement bivalente. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui crée, d'après moi, un courant. Il n'est pas le seul.
Il n'est pas le seul. Ouais, ça c'est
la modernité réactionnaire. Donc ce n'est pas la réaction au sens droitier du terme. Ce n'est pas non plus du tout un moderne au sens banal du terme. C'est quelqu'un qui vit dans une nouvelle démesure. C'est quelqu'un qui ne renoncera absolument pas à certains dogmes des années 70. Une certaine configuration du monde, notamment une manière de comprendre l'être comme quelque chose de vivant, de dialectique, un concept qu'il emprunte parfaitement à des philosophes allemands dont il ne remet absolument pas en cause l'ontologie. Chez Muret, on entend, quand on a fait un petit peu de philosophie allemande, on entend Nietzsche, on entend Hegel. C'est d'ailleurs pour ça que c'est assez curieux de vouloir n'en faire qu'un écrivain selon les terminologies en vigueur à l'université. Donc, on voit quelqu'un qui s'empare de ces concepts dioniso-bizarres qui ont fait la fortune de l'université des années 70 et notamment de l'université de Vincennes. Donc, c'est un homme qui, à ce niveau-là, n'est pas du tout réactionnaire, absolument pas. Au contraire, il porte son époque avec lui. Mais justement, que va-t-il se passer après avoir été, pendant les années 70 d'ailleurs, quelqu'un de très ancré dans les courants littéraires qui étaient les siens, il va y avoir un virage qui ne va pas avoir lieu du jour au lendemain. Bon, il va écrire d'ailleurs, il va d'abord écrire un Céline, puis le 19e siècle à travers les âges, etc. Et le véritable choc va avoir lieu en 90-11 quand il va écrire L'Empire du Bien. C'est là qu'il va devenir.
Alors peut-être qu'on peut faire un feedback. Bon. Un retour en arrière pour que nos auditeurs.
Un retour en arrière, je ne comprends pas. Feedback, je comprends, mais.
Pour que les auditeurs comprennent un peu qui est Philippe Muret. Donc c'est un enfant de deux personnages, puisque son père est un écrivain. Il est un traducteur, un linguiste, et il fait beaucoup de traductions de la littérature américaine au français. Enfin, donc il a vécu, et il écrit aussi des livres, et il a vécu toute sa vie dans les livres, en fait, avec une mère qui est une grande lectrice également. Donc, c'est un enfant qui a vécu là-dedans. Et il a fait des lettres lui-même. Il fait des études de lettres et après, je crois qu'il part aux États-Unis, à Stanford. Et donc là, il a un premier choc parce qu'il voit quelque chose qui, en fait, va lui donner la clé de ce qui s'est passé après en France, peut-être. Et c'est là que vient l'idée de ce livre.
Alors, Stanford, c'est un séjour qu'il a fait pendant quelques temps, d'ailleurs.
Comme professeur
Il a surtout obtenu, je crois, sous toute réserve, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais. Il a fait un séjour assez bref, pendant lequel il s'est ennuyé horriblement, il n'aimait pas du tout les États-Unis, et il a écrit à ce moment-là très vite, de manière fulgurante, le 19e siècle à travers les âges, Et
ça a été son premier livre, édité l'année d'après, en 84.
Son premier livre, son premier livre, il a écrit 4 livres dans les années 70, parmi lesquels, ils sont très difficiles à trouver aujourd'hui, j'espère qu'un jour on pourra les trouver facilement. Son premier livre, c'est son, enfin, son premier livre, parmi lesquels, parmi ceux qu'on peut trouver aujourd'hui, c'est son Céline, le 19e siècle, c'est son deuxième, en quelque sorte, parmi ceux qu'on peut trouver. Ce 19e siècle à travers les âges, aujourd'hui, est son livre le plus connu, le plus apprécié, surtout par ceux qui n'aiment pas Muret. Mmh. Vous voyez ? Donc, c'est un livre énorme qui a été écrit dans une langue qui n'est pas celle qu'il va utiliser plus tard. Mmh. C'est une dizaine d'années avant les grandes explosions baroques des années 90, mmh. avant les créations multiples sur le plan linguistique. C'est gentil, le 19e siècle à travers les âges, mais encore une fois, on a l'impression que c'est l'ouvrage qui permet aux universitaires de lire Muret sans trop se mouiller. Vous voyez, on peut dire Muret, on peut dire « Ah oui, Muret, c'est formidable, parce qu'il écrit le 19e siècle à travers les âges ». Mais bon, c'est une thèse qu'il défend, que je trouve un petit peu légère, un petit peu simple, au sens où, cette thèse du socialisme-occultisme, loc-soc, comme il dit, c'est pas forcément quelque chose d'extrêmement subtil. On a l'impression presque qu'on a.
Mais c'était à l'époque. Mais
Barlel, vous voyez,
mais à l'époque, c'était une découverte.
Peut-être.
C'est un aspect qui on avait tendance à mettre la boîte.
Totalement oublié. Antoine Fèvre a été un des premiers aussi à écrire sur l'histoire de l'occultisme au 19e siècle.
Il avait Barlel dans les années 80. Mais
je pense. Et que ça a dû être une révélation pour beaucoup.
En tout cas. Cet homme qui écrit le 19e siècle à travers les âges et l'homme qui écrira l'Empire du Bien en 90-11 et qui va justement faire apparaître le concept de cordicopolis, la cité cordiale où on est bien content, il n'a pas encore inventé Homo Festivus. Bon, entre ces deux hommes, il y a quand même une certaine distance. Et à partir du moment où cordicopolis va être inventé conceptuellement, alors Homo Festivus va surgir et puis on va connaître cette magnifique comédie humaine qui, au contraire de Balzac, qui est le grand maître de Muret, ne sera pas imaginaire. Il n'aura plus qu'à regarder autour de lui. On a plutôt l'impression... moi je n'ai pas connu Muret, hein, comme beaucoup d'autres. Mais peut-être que si on avait demandé à Muret... comme on a demandé à Fellini, mais comment vous faites pour rencontrer des types aussi épouvantables que ça dans vos films ? Muret aurait certainement répondu, mais il suffit de sortir dans la rue. C'est vrai, contrairement à Balzac, il n'a pas eu besoin d'imaginer des personnages. On se demande toujours si Muret est romancier ou pas, c'est une fausse question.
En tout cas, il a écrit des romans.
Il a écrit des romans que tout le monde désavoue. C'est aussi une fausse question pour diverses raisons. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'en parler, mais en tout cas, ces exorcismes spirituels, il prend des personnes connues, des ministres de la culture, des ministres tout court, des tas de personnages, des chefs de parti, des inventeurs de Vélib ou des choses comme ça. Et puis, il en fait des personnages parce qu'il suffit de regarder, il suffit de versifier un monde détruit, donc de poser la plume et le verbe sur un monde qui lui-même, dans sa réalité, décrit sa propre destruction. Le rôle de l'écrivain est de plonger dans ce réalisme-là. Pourquoi aller chercher l'essence des amours décomposés alors que les amours décomposés sont sous votre nez? Pas besoin de faire cet effort.
En ça, il est moderne.
En cela, je dirais qu'il y a un naturalisme qui est tellement... qui n'a pas besoin de faire, je dirais, d'efforts particuliers autres que celui de styliser un monde qui se décompose.
C'est du Balzac.
C'est du Balzac sans qu'on ait à chercher de manière... platonicienne derrière les apparences, le phénomène étant lui-même tellement malade qu'il contredit tellement l'essence que l'essence finit par pleurer si fort derrière le phénomène que lui-même, que lui-même n'a plus qu'à en recueillir les larmes et à essayer de faire rire avec des larmes. Bon, on est en plein dans l'image du taureau de Phalaris, le taureau dans lequel on enferme des gens qu'on fait brûler et lui-même laisse échapper une mélopée extrêmement douce alors que les gens sont en train de bouillir à l'intérieur. C'est un petit peu le rôle d'écrivain peut-être que Muret s'est assigné.
Il a fait du théâtre, de la poésie.
Alors ça, c'était justement dans
des
ça.
Romans policiers dont on ne sait pas.
Je ne sais pas qui.
On ne sait pas le nom sous lequel il les a signés, mais il paraît qu'il en a écrit une centaine.
C'est pour ça qu'il vivait. Mais je sais que sa pièce de théâtre, il a écrit une pièce de théâtre dans sa jeunesse, à l'époque où justement il était en plein dans les courants littéraires des années 70. Il a également écrit à la fin de sa vie, enfin, il ne l'a pas écrit à la fin de sa vie, mais il a rassemblé des poèmes sous le titre Minimum Respect. C'est un recueil extrêmement important qu'on néglige beaucoup. C'est un recueil fait de divers poèmes, d'anti-poèmes, je dirais, car il fait précéder le recueil d'une préface terrible où il vous explique que la poésie, heureusement que la poésie. Heureusement qu'il arrive, parce que la poésie s'est totalement égarée. Alors évidemment, c'est plein d'ironie. Il vous explique que, bon, c'est bien gentil, Rimbaud, que Verlaine, c'est mignon, mais que Philippe Muret, ça va être beaucoup mieux, parce que la poésie doit descendre de son idéalisme, qu'elle ne nous sert strictement à rien, que la contemplation n'a absolument aucun intérêt. Et c'est là qu'on va véritablement...
Là, il est devenu postmoderne.
Oui, c'est là qu'on arrive à comprendre véritablement ce que fait Muret. Alors évidemment, il dit tout ça avec beaucoup d'ironie, ce qui le rend très sympathique, parce que vous enlevez l'ironie de cela, on a l'impression si on n'est pas, on a l'impression qu'on se trouve en pleine folie. Et suivent des poèmes qui sont d'une régularité prosodique tout à fait remarquable, c'est d'une perfection complète. Mais ce sont des poèmes qui n'ont absolument pas d'objet autre que la destruction complète de ce qui est déjà détruit. Et pourtant, ce moins par moins ne fait jamais plus. Il n'y a qu'un seul poème à la fin qui ouvre une perspective mystique. Donc on a droit à des poèmes pornographiques, irrévérencieux, qui sont souvent d'ailleurs très drôles, un cynisme, une ironie constante, une obsession contre Ségolène Royal qui est récurrente. Mais le dernier poème qui s'appelle Mémoire, du mal d'ailleurs à ne pas penser au fameux Mémoire de Rimbaud, le Mémoire de Rimbaud qui est à la fois dans les Illuminations et qui est également mis en vers par Rimbaud, donc il y a deux versions chez Rimbaud. Muret termine ce que je considère comme le dernier de ses livres, car Exorcisme 4 paraîtra après, mais c'est dans la même veine que les précédents ouvrages d'exorcisme. Minimum Respect, le dernier ouvrage, je pense que c'est la dernière empreinte de style qu'il donne à l'édition. Ce livre vous montre un Muret totalement différent, au sens où il va versifier et il va également dire des choses de lui, ce qu'il ne fait jamais véritablement. On sait qu'il râle, bien sûr, on sait qu'il maudit le monde dans lequel il vit, on sait qu'il rit, on sait qu'il son rire est parfois lugubre, parfois au contraire extrêmement détaché, mais pour une fois, dans Minimum Respect, il va montrer également sa pudeur tout en disant quelque chose de lui. On va voir un être d'une certaine noblesse et on va voir un homme perdu dans ses contradictions. Et ça, c'est très important. On va voir un homme...
Vous livrez dans la dernière partie des deux livres, d'ailleurs, à une analyse de son poème, de son... que vous considérez presque comme le dernier poème.
Oui, mais je ne sais pas si chronologiquement c'est exact, oui. Mais...
qui s'appelle « Le paradis offusqué, Muret au sens insu de son œuvre », c'est-à-dire, au fond, tout d'un coup, vous montrez comment il entre dans les profondeurs. Et c'est un exercice que vous faites souvent, quand vous... un exercice philosophique que vous faites souvent, c'est-à-dire, je vais penser qu'il y a une façon d'analyser la pensée par le poème ou par l'œuvre d'art, un exercice dont vous êtes un expert et peut-être vous avez innové dans ce domaine.
Alors, je ne sais pas si j'ai innové, j'ai eu un maître qui s'appelle Heidegger dont on dit beaucoup de mal, mais c'était quand même un grand professeur et d'avoir suivi
ses
livres. Et
oui, il faisait la même chose.
Et, donc à la fois il était admiratif des gens qu'il lisait et qu'il critiquait.
Il voyait une pensée dans l'art. Et vous voyez une pensée dans l'image poétique, il l'analysait d'une façon philosophique, et c'est ce que vous faites exactement.
Le but ici n'est pas du tout de critiquer ou d'admirer un homme, un penseur. Le but est de le rendre à lui-même, de le restituer à sa place première, et surtout de montrer en quoi il nous dit quelque chose de son époque, mais malgré lui, donc lui, on a parlé de son époque, ça, il n'a fait que cela. Justement, en faisant ce qu'il a fait, il a également mis à jour un symptôme. Et ce symptôme, c'est qu'il a, par son discours, illustré quelque chose de son époque. Et notamment une incapacité complète à contempler quoi que ce soit et à rentrer dans l'élément de contemplation qui est présent, notamment par l'art, mais également par ce à quoi ouvre l'art, c'est-à-dire un espace, une dimension, une quantitas animi, dirait saint Augustin, oui, un domaine de l'âme dont Muret n'avait que faire.
Donc si je comprends bien, on ne peut pas regarder les deux choses à la fois. Et lui, il a choisi de regarder l'autre face.
Si, je pense qu'on peut regarder les deux choses à la fois, au sens où vous avez par exemple en face de vous un phénomène que je considère être, qui fait très bien, qui s'amuse très bien à dire beaucoup de mal de son époque, qui en même temps peut également essayer de contempler considérablement ce par quoi lui-même est capable de parler. Donc le verbe est une interface à la fois capable de détruire tout ce qui n'est pas digne de lui et capable de regarder tout ce par quoi il est capable d'émettre quoi que ce soit. Le défaut de toutes les pensées, y compris les pensées terminales comme celle de Muret, c'est de ne jamais réfléchir sur les conditions de leur propre émergence. Et là, bon, je reviens à un livre qui me paraît maintenant très ancien, mais qui ne l'est pas tant que ça, La vérité captive, dans lequel je posais la question des conditions de possibilité de l'émergence de la réflexivité humaine. Muret a choisi de n'être qu'un esprit critique qui se promène avec une lampe au-dessus du monde pour dire « je cherche un homme », la question c'est de savoir qui a allumé la lampe. Bon, évidemment, Diogène n'en sait rien. Et le Diogène muréen n'en sait rien. Moi, ma question, c'est de savoir qui allume la lampe pour qu'on puisse ensuite soit louer, soit dénoncer.
Alors, Maxence Caron, votre livre « Philippe Muret, la femme et Dieu » est un petit peu une sorte de réflexion sur les contradictions de cet homme. Qui est particulier puisqu'il est à la fois dans son époque totalement, il y adhère, il écrit dans toutes les revues branchées de l'époque, il est partie prenante dans tout cela, et en même temps il a un regard décalé et je pense qu'il n'est pas comme la plupart des 68ards qui ont traversé ces 40 dernières années, atteint par la schizophrénie. Il est atteint par autre chose, par la contradiction, par une sorte de quête désespérée. Je ne sais pas comment vous pourrez définir ça, mais en tout cas, vous nous plantez ce type de personnage, parce qu'il y en a d'autres aussi dans l'époque. Je pense beaucoup, ça m'a beaucoup fait penser à Baudrillard, qui est un peu ce type d'homme. C'est toujours très passionnant de lire Baudrillard parce qu'il vous décrit l'époque, on n'en sort pas indemne et on reconnaît tout. Et il est dans la même situation finalement. Il participe à toute cette époque, il est reconnu comme l'un des leurs, et en même temps, c'est Baudrillard, un beau jour, a écrit que
l'art contemporain était nul.
Et que l'art contemporain était nul, et ça a été ça a déclenché une mini-guerre culturelle qui a duré 6 mois en 97 et qui a été ensuite immédiatement étouffée systématiquement par les médias. Mais voilà, on a un personnage un peu du même genre. Et je pense à Camus aussi, à d'autres gens d'aujourd'hui qui ont cette vision non schizophrénique de l'époque, mais désespérée quand même.
Mais Muret, évidemment, il fait partie de cette génération de personnages peut-être sacrifiés qui ont dû enfoncer des portes ouvertes et en souffrir pendant un certain nombre d'années. Dire que l'art contemporain est nul, écoutez, moi je le dis avec une sérénité complète, je ne vois pas en quoi cela peut être contestable, ce n'est même pas pour moi un sujet de débat, c'est nul, point, on n'a même pas besoin d'en parler. Mais simplement, il se trouve que Philippe Muret, lui, il l'a dit il y a 20 ans.
Et qu'il écrivait dans Art Press.
Oui, mais il a quitté Art Press, il a démissionné d'Art Press, justement pour défendre Jean Clair. Et, Ça n'a pas fait un pli quand il a quitté Arpresse. Il a quitté Arpresse. Bon, maintenant, il se trouve que dans les années 80, dire que l'art contemporain était nul, c'était certainement plus dangereux qu'aujourd'hui pour son...
Ne croyez pas, parce que dans les années 80, le système d'État n'avait pas commencé. Tandis qu'en 2011, le système d'État tient tout dans le domaine de la création. Et toutes les possibilités de visibilité sont tenues. Donc, c'est toujours quelque chose de pas normal de dire que l'art contemporain...
Ah oui, ça, je suis persuadé. Simplement, peut-être qu'on avait l'air plus vite réactionnaire et infect quand on disait cela, alors qu'aujourd'hui, quand même, on a quand même, après avoir traversé certains espaces, certaines situations... après avoir vu... certaines poupées gonflables roses, etc. On trouve que les choses sont un peu plus... Il me semble que c'était peut-être plus dur à l'époque de Muret de dire certaines choses que de les constater aujourd'hui, alors que elles ont été tellement rendues populaires, tellement obligatoires que... il y a quand même une sorte de réflexe. Maintenant, Muret lui-même, dans sa propre attitude, c'est un homme qui, ayant fait... Il le dit nombreuses fois, notamment dans les entretiens radiophoniques, ayant fait de l'esprit critique du XVIIIe siècle son fer de lance. Ça ne l'intéresse pas de se poser la question des conditions de possibilité de son discours. Bon, ça c'est le premier point. Maintenant, quand il va parler de l'art, justement, il ne va pas parler justement de la contemplation. Il ne va pas parler de l'œuvre en elle-même, de ce qu'elle peut évoquer, de la lumière qui peut être contenue en elle. On ne va pas se retrouver comme chez Kant, que j'aime beaucoup, quand Emmanuel Kant, dans la critique de la faculté de juger, vous transmet quatre concepts quasi irrationnels pour vous expliquer que l'art véhicule quelque chose d'irrationnel. Le concept de finalité sans fin, le concept d'universalité subjective, qui sont des concepts évidemment qu'on ne trouve qu'en art, parce qu'on ne peut pas les... Muret, lui, ne sortira pas ça. Il va vous écrire un livre sur Rubens, uniquement pour vous montrer que Rubens est un compagnon de combat. Donc, c'est très ambigu comme attitude. On ne s'imagine pas... j'ai envie de dire que ce ne sont pas des manières, mais en même temps, c'est une attitude à la fois très ambiguë et qui ne l'est pas du tout. C'est ça qui est très étonnant chez lui. Alors son attitude, quand vous dites qu'il n'est pas schizophrène, c'est vrai, il ne l'est pas, c'est un monomane. Mais là où il le serait, je dirais, c'est que refusant toute forme d'esprit, de contemplation, toute forme de surnaturalité, pas au sens... bizarre du terme, pas la surnaturalité au sens des soucoupes volantes, mais toute forme de surnaturalité, toute forme d'idée au sens platonicien du terme, refusant cela, il est bien ancré dans une époque qui, pendant les années 60 et 70, sera infusée de nietzscheo-hegelianisme. Bon. Et à partir de là, comment un homme qui aura ce concept-là de la réalité va-t-il pouvoir attaquer une époque qui sera tout simplement la conséquence de ce concept de la réalité? Donc, lui-même portant ce nietzscheo-hegelianisme, certain hegelianisme, ce nietzscheo-hegelianisme, comment va-t-il pouvoir à la fois porter ceci et le combat, et en combattre les conséquences? Et je pense que c'était un homme qui savait parfaitement qu'il était configuré conceptuellement selon tel type d'époque et qui...
Il n'a jamais mis ça en cause, déjà.
Non, je ne crois qu'il n'a jamais voulu porter une critique de fond sur la configuration conceptuelle qui était la sienne. Et en revanche, il a attaqué de manière effrénée absolument tout surgissement de l'immanentisme qui émanait de cette configuration. Alors là, ça donne effectivement une contradiction très forte. Et que reste-t-il d'une œuvre dans laquelle un homme se combat lui-même? Eh bien, une très grande violence, parce qu'il combat d'autant mieux quelque chose qu'il le connaît comme faisant partie de lui-même. Et je crois vraiment que Muret connaissait particulièrement bien Homo Festivus pour savoir que c'était peut-être son double.
Mais comment expliquez-vous, Maxence Caron, qu'un homme cultivé qui a croisé toutes les merveilles de l'art n'est pas franchi le mur?
Ah, mais vous savez, c'est le mystère de la conversion. On peut très bien. Vous savez, il y a une distance infinie entre l'ordre de l'intelligence et l'ordre de la charité. L'ordre de la charité étant celui où on se laisse saisir véritablement par ce que l'intelligence contient pour être l'intelligence. Bien sûr, Muret était certainement un des esprits les plus acérés et les plus cultivés de son temps. Pourquoi a-t-il voulu être une corrosion plutôt qu'une conversion? On peut très bien être aussi acéré que lui et avoir la rigueur d'aller aux sources mêmes de l'esprit critique et de sa capacité corrosive. Regardons Pascal, mais regardons même Montaigne, qui ne faisait... Enfin, aujourd'hui, on lit Montaigne à la Comte Sponville. Alors, évidemment, on ne sait plus très bien qui est Montaigne. Bon, mais quand on lit Montaigne correctement, et qu'on oublie Luc Ferry et Comte Sponville, eh bien, on arrive à voir que Montaigne est parfaitement... est un sceptique, bien sûr, mais son scepticisme s'alimente à l'Ecclésiaste. Je rappelle que la fameuse librairie sphérique, qui était le lieu où Montaigne passait sa vie, l'Ecclésiaste, justement, parsemait de ses citations cette librairie. Donc, on peut être totalement sceptique et totalement spiritualiste. Bon, pourquoi avoir coupé les deux? Mais c'est tout le mystère du... de l'époque, bien sûr, et c'est ce qui fait de Philippe Muret ce que Heidegger aurait dit de Nietzsche, un suppôt de la fatalité occidentale. Vous voyez,
et, ça existe, ça.
Suppôt de fatalité occidentale, au sens où Muret porte en lui une fatalité, et son drame, c'est qu'il le sait très bien.
Et qu'il ne lutte pas contre.
Certainement, je ne sais pas, je ne peux pas sonder les reins et les cœurs de ce grand écrivain. Ce que je vois, moi, ce qui m'intéresse chez cet homme, c'est à la fois son génie et son symptôme, parce que c'est la même chose chez lui. Et c'est ça qui est un drame. C'est tout ce que je vois, c'est que chez lui, il y aura, à la fin, à la dernière page de ce qui pour moi est son dernier livre, il y aura un regard vers ce qu'il appelle le royaume du Père. Et il met le Père avec une majuscule. Il écrit le Père avec une majuscule. Donc il y a quelque chose pour lui. Il sait qu'il y a quelque chose. Pourtant, il restera dans une position agnostique que son œuvre porte, et il utilisera le christianisme exactement comme... heureusement, c'est sur le plan littéraire et pas sur le plan épouvantable politique un certain Maurras... Maurras, quel horrible mot. Enfin bon, donc utilisera, mais il utilisera le christianisme comme cadre critique pour accuser une société qui ne sera plus capable d'être chrétienne. Il dira très clairement, nous manquons de castration et de Bible. C'est en Festivus Festivus. Bon, donc lui sait très bien que la société dans laquelle nous sommes n'est pas une société judéo-chrétienne, et il s'en plaint. Maintenant, il s'en plaint parce que ce qu'il demande au judéo-christianisme, c'est une structure. Mais il ne demande pas une adhésion du cœur. Mmh. Non, il veut une instrumentalisation du dogme judéo-chrétien pour que les gens soient ne soient pas des mutants, comme il dit.
Oui. Et surtout, il y a une critique de la bêtise dans son...
Bien entendu, et surtout, ce qu'il voit d'intéressant dans le judéo-christianisme, c'est que le judéo-christianisme apporte ce qui est fondamental pour lui, en hegelien qu'il est, en lecteur de Hegel qu'il est, il apporte ou en nietzschéen également, le judéo-christianisme apporte la contradiction à un monde qui devient complètement lisse, dans lequel la moindre contradiction est vécue comme une agression, où on ne fait que des débats, mais des débats où tout le monde est déjà d'accord. C'est pour ça qu'il se moque tellement du débat, parce que le débat devient un débat bavardage, en quelque sorte. Pour lui, le véritable dialogue, la dialogie, la dialectique, n'existe plus. Il n'y a plus de contradiction. Donc, du moment que vous n'êtes plus dans la contradiction, l'élément judéo-chrétien qui est là pour véritablement apporter cette contradiction à un monde qui vit vautré sur soi, est nécessaire, mais n'est pas nécessaire en tant que, comme dirait Pascal, évidemment, la religion sensible au cœur. Non, pas du tout. C'est simplement un élément architectural, ni plus ni moins. C'est pour ça, un outil, une instrumentalisation qui, de fait, est un geste qu'on connaît être celui des ligues extrêmes, extrémistes, qui ont voulu s'en servir sur un plan politique. Heureusement, Muret n'est pas du tout de ce bord-là, mais disons qu'il utilise cela de manière littéraire, ce qui est totalement, à mon sens, enfin, pas totalement neuf, ça existe ailleurs, mais du moins, l'avoir fait dans les années 80, c'est assez neuf. Muret est un homme qui n'est pas politique, mais la façon dont il utilise le christianisme fait penser à ce geste dont il n'est évidemment pas solidaire. Muret est un écrivain anarchiste qu'on ne peut évidemment appliquer à aucun bord, absolument pas.
Maxence, ce livre évoque la femme aussi, pourquoi ?
Ah oui, alors la femme, c'est précisément ce qui tiendra lieu. Il y a une nostalgie chez Muret, une nostalgie de l'Éden. Cet Éden, c'est le thème le plus complexe qui exprime à peu près toute la teneur de la pensée de Muret. Cet Éden aurait pu être manifesté dans son œuvre de manière très religieuse. Pourquoi ne pas faire comme Pascal et dire que nous sommes des rois déchus et que tous nos désirs convergent vers un paradis perdu. Justement, chez Muret, cette nostalgie de l'Éden est visible. Simplement, elle va être interceptée par un désir, celui de la femme, qui a un rôle extrêmement important chez Muret. Alors pourquoi ? Déjà parce qu'il est en guerre contre une certaine idée de la femme, qui est une idée moderne, féministe, contre le féminilisme, comme il dit. Et cette guerre est évidemment, pour lui, aurait une issue tout à fait satisfaisante à partir du moment où une réconciliation serait obtenue. Cette réconciliation, ce serait une reconnaissance de l'altérité de l'autre sexe.
Donc un véritable amour. En fait.
Un véritable amour, mais... et à ce moment-là, Muret, et on le voit dans ses poèmes, que lui arriverait-il si jamais il avait ce véritable amour, si jamais le féminilisme arrêtait de transformer la femme en homme ou l'homme en femme, et qu'on arrêtait de fusionner dans une espèce de même-té sauvage, eh bien, cette dialectique, ce dialogue réel qui introduirait la contradiction dans l'identité, on est en plein Hegel, à ce moment-là, ça satisferait Muret dans un sens, et en même temps, cela lui permettrait de faire quelque chose qu'il aime énormément, et à chaque fois que, dans ses poèmes, notamment, il est question de cette réconciliation avec la femme, le thème apparaît, alors il peut se... un peu comme Baudelaire, il s'installe, et à côté de la femme aimée, il regarde enfin l'Éden religieux. Et la femme lui sert en quelque sorte d'apaisement pour pouvoir regretter cet Éden religieux. C'est pas pour ça qu'il va se convertir pour autant. Mais au moins, il va se dire « je vais pouvoir me plaindre maintenant, mais d'une manière qui ne sera plus sociologique, anthropologique, historique, que sais-je encore. »
On pourra laisser parler.
On va pouvoir enfin parler d'une nostalgie ontologique. Donc la quête de la femme est pour lui une manière de pouvoir trouver ce repos qui lui permettra de penser à une éventuelle quête d'un être qui n'est plus défini à ce moment-là selon les termes de la postmodernité, mais un être qui est celui du christianisme. Alors peut-être Muret se dit enfin on va peut-être pouvoir commencer à penser le christianisme autrement que comme un outil de dépucelage des bêtises contemporaines.
Si je comprends bien, le pauvre Muret a appris qu'il avait un cancer en février et est mort en mars.
D'après ce que j'ai compris, oui.
Ça paraît fulgurant.
Ça a été très rapide, je crois, oui.
Merci Maxence Caron. Et ces deux livres sont très intéressants pour comprendre l'époque, je crois. Là, on a un personnage, type et un personnage clé. Et vous les décryptez merveilleusement. Et tous les textes qui sont là sont tous...
Oui, alors je voudrais saluer bien sûr tous les contributeurs qui nous ont donné...
Il y en a combien?
Et on est donc en tout 40 avec Philippe Muret, Madame Philippe Muret. Donc Anne Muret nous a donné 4 extraits inédits du journal. Voilà. Nous avons également plusieurs contributeurs. Nous avons même un entretien avec Fabrice Lucchini, dont il a été de très bon ton de dire que ce n'était pas bien qu'il les lirait, etc. Au contraire, c'était très bien.
Oui, j'ai eu un immense succès.
Je suis ravi qu'il ait lu Muret au théâtre de l'Atelier.
Ça a été un grand succès.
Et il l'a très bien fait, et puis ça a été très très bien organisé.
Donc ça, cette ouvrage collective appartient au cahier d'histoire de la philosophie aux éditions du CERF.
C'est la collection que je dirige au CERF, oui.
Et puis également, Philippe Muret, La femme et Dieu, donc Maxence Caron, cette fois aux éditions Arthège. Là, c'est un livre beaucoup plus petit pour aborder...
Oui, pour une fois, je n'ai fait que 150 pages.